ってんのかよ。
On va tout de même redémarrer, mais c'est très difficile de présenter Valérie. C'est pour ça que Frédéric m'a confié la tâche. Valérie, l'insaisissable entre le français, le russe et mille autres langues, ça commence mal. Le problème de Frédéric, pardon, de Valérie.
Le problème de Frédéric, c'est après.
C'est que, le problème de justement, justement, il est partout. Il est dans la littérature française, la littérature russe. Il est lui-même auteur. Traducteur, c'est à ce titre qu'il est ici. Il est en même temps un grand érudit, n'est-ce pas, puisqu'il a fait une thèse à Paris 8 et bon, on se demande d'ailleurs pourquoi. Mais enfin, en tout cas, il a touché beaucoup régulièrement au cinéma. Pour ceux qui connaissent, en particulier, il a été l'assistant de.
De German,
c'est-à-dire mon ami Ivan Lapchine, et surtout Kristalioff, ma voiture, parce que pour Lapchine, c'était pas toi, je crois. Enfin, je devrais compléter l'énumération en citant quelques-uns des titres qu'il est en train de me mettre, des livres qu'il a traduits, et je dirais simplement Vian, L'Arrache-Cœur, Queneau, Les Exercices de Style, Saint-Glinglin, Salimara, et surtout, avant Volodine, qu'il est en train de. La disparition de Pérec, pour lequel je vous dis tout de suite que là.
Et la vie mode d'emploi aussi.
La vie mode d'emploi, soit, et bien d'autres, mais pour la disparition, il suffit pour ceux qui parlent russe, je ne sais pas s'il y en a ici, de savoir que le E n'existe pas en russe. Donc, je vous laisse imaginer la suite, ou plutôt, éventuellement, il vous en parlera. Alors, traducteur donc de Volodine, il nous ouvre les frontières. Puisque nous voilà, cette fois-ci, non pas en langue étrangère, mais en... Alors, l'étranger de l'étranger, eh bien, il va nous dire ce que c'est.
Je suis très ému et un peu troublé.
Alors, mettez les
troublé
lunettes.
Troublé visuellement, c'est encore pire avec les lunettes, mais... Nous commencerons par deux citations d'Antoine Volodine. La langue de mes personnages n'est pas une langue nationale, mais la langue transnationale des conteurs d'histoire, des exclus, des prisonniers, des fous et des morts. Je suis ici porte-parole de leur voix. Dans mes livres, je traduis en français les fictions qu'ils produisent pour protester contre le réel, pour saboter le réel ou pour transformer le réel. Deuxième citation. Les surnarrateurs post-exotiques écrivent, rêvent et communiquent dans une langue indéterminée qui arrive au livre sous une forme traduite, francophone. Ainsi, les textes d'Antoine Volodine nous révèlent l'existence de la langue générale des vaincus, langue commune des exilés, des exclus, des prisonniers, langue transnationale, sorte de sabir internationaliste des camps, mélange des idiomes qui ne s'épanouit véritablement que derrière les barbelés et qui accumule dialectes, argots et accents de toutes sortes. Peu importe, déclare un des narrateurs, si la langue, je saute, est parente des dialectes altaïques ou dominée par les influences slaves ou chinoises, ou au contraire proche des langues chamaniques des Rocheuses ou des Andes, ou plus sorcières encore. Donc, une langue chamanique universelle, langue gothique, langue des fous, et c'est aussi, je cite, dans certains cas à peine une langue humaine, de ceux qui sont réduits au rang des sous-humains. Untermenschen. Donc c'est depuis tous ces langages à la fois, avec le lexique difficile à maîtriser quand plusieurs idiomes sont en concurrence, à la frange du braillement inhumain et sur le point d'être étrangère au monde réel, qu'Antoine Volodine traduit en français les histoires de ces personnages, conteurs et narrateurs post-exotiques. Ici, le mot « traduire » est on ne peut plus ambigu, mais qui nous interdira de le prendre à la lettre? Ici, ce bel après-midi, quand je dirai « nous », cela voudra le plus souvent dire « je », quelle que soit la phrase prononcée. D'emblée, nous voyons à quel point la traduction depuis cette langue anonyme, que pour simplifier nous pourrions appeler post-exotique, pourra s'avérer hasardeuse. En effet, vouloir traduire ce mélange transnational linguistiquement déterminé dans une langue nationale officielle, disons en français, sera une entreprise extrêmement problématique. À des difficultés basiques évidentes, genre polysémantisme, néologisme, réalia ignorée, notion inconnue, plus la transcription très problématique phonétique, s'ajoute un autre problème. Les récits des personnages sont débités, je cite, de façon onirique, dans un désordre qui empêche l'auditeur hostile de reconstituer pleinement et aisément l'histoire. Il s'agit donc d'un principe et d'une pratique fondamentale qui consiste à livrer des informations volontairement erronées. Les narrateurs parlent comme s'ils étaient en permanence exposés au danger d'une révélation dangereuse. Par exemple, pendant un interrogatoire de police. Des précautions sont prises, je cite, en particulier le cryptage des noms et des actions ainsi qu'une esquive narrative. Ainsi, les propos post-exotiques se fabriquent avec omission et non-dit, flou et vague, contresens et non-sens. Tout message, dans cette langue estropiée, arrive perturbé par apnée narrative, essentiellement suggestif, partiel, allusif. Ainsi, je cite, « tout sera ininterprétable dans le livre qu'Ingrid Fogel composera dans son rêve. Ininterprétable d'autant plus que, d'après le calendrier post-exotique, nous touchons déjà, je cite, « à une époque de l'histoire humaine où non seulement l'espèce s'éteignait, mais où même la signification des mots était en passe de disparaître. » Signalons encore qu'ici la traduction proprement dite ne peut opérer qu'après l'interprétariat, car la production post-exotique est d'habitude orale, de surcroît onirique, ce qui complique davantage la réception des messages. Un des exemples les plus frappants, c'est notamment le cas du personnage mourant qui entend des slogans révolutionnaires au lieu des calembours surréalistes qu'on lui lit à la place des instructions du bardo Trudel. Notons également, comme difficulté supplémentaire pour un traducteur, des défauts d'élocution permanents ou occasionnels venant de la carence physique ou psychique dont plusieurs personnages sont atteints. Le long des pages, on bégaye, on balbutie, on bredouille, on bafouille, on marmonne, on meugle. Il s'ensuit des phrases haletantes et décousues avec des sifflements de gorge et des râles qu'on a tout loisir d'interpréter. L'interprétation s'avère d'autant plus incertaine que cette masse verbale, mutilée et cryptée, provient de plusieurs personnages. Pour interpréter cette voix plurielle, l'oreille devrait d'abord percevoir et discerner dans le brouhaha collectif des contributions individuelles qui se superposent. Ce bredouillage polyphonique, à l'intérieur ou à l'extérieur des crânes, issu de personnages doubles, triples ou, comme Schlum, scindé en plusieurs, véhicule l'inconscient collectif, schizophréniquement éclaté. Outre cette polyphonie aberrante, il existe un problème que j'appellerais problème technique, lié à de très mauvaises conditions acoustiques. Les voix venues de sources lointaines et non localisables ou entendues directement à l'intérieur du crâne sont souvent abîmées, quasi inaudible à cause de la distance parcourue, mais aussi corrompue par les bruits et les sons parasites. Doté des moyens de la technologie moderne, comme l'enregistrement magnétique, la radiotranslation et la téléphonie, les chuchotas et murmuras sont épisodiquement traversés par les effets Larsen. Sans parler encore de la reproduction, notamment de ces messages phonocopiés, qu'on, je cite, « on ne réussit plus à traduire ni à s'approprier ». La voix récitant des prières, derrière la porte de Bardot, je cite, « est très déformée par la distance, et elle semble avoir longtemps voyagé à travers la canalisation. Il faut être spécialiste pour la déchiffrer. » Ainsi, quiconque prétend au rôle du porte-parole post-exotique devrait être forcément ce spécialiste du déchiffrement, et faire preuve de toute sa sensibilité et de toute son intuition. Mais avant d'agir en interprète-traducteur, il faudrait qu'il soit apte à capter et analyser d'humbles indications. Et c'est ensuite qu'il se montre capable de les relier pour, l'expression d'un énième Schlum, bâtir un édifice intellectuel cohérent. Schlum, comme plusieurs narrateurs sur narrateurs post-exotiques, n'arrive pas même à passer le premier stade. Volodine apparemment si, et à tenir du début à la fin. Apparemment, car nous ne disposons pas d'originaux, ni écrits, ni oraux, pour les comparer avec les traductions réalisées en français. Faute de pouvoir effectuer une étude scientifiquement justifiable, arguments et preuves à l'appui, nous autres, lecteurs sympathisants, n'aurons qu'à déduire, qu'à supposer. Je dis nous, mais on aura compris qu'il s'agit de moi. La supposition suppose un certain doute, tout à fait pardonnable si nous prenons en considération qu'un traducteur qui s'aventure seul dans la sphère du post-exotisme aurait du mal à aborder la diversité hétéroclite de ce langage peu crédible et difficilement opérable, et à rendre toute sa polyphonie vocale. D'autant plus qu'il œuvre hors du ghetto carcéral et n'a pas forcément, ni toujours, le même décalage avec le monde réel. En tenant compte de tout cela, un projet si ambitieux ne pourrait pas ne pas poser de problèmes épineux. Il y aurait inévitablement, et probablement davantage que dans des traductions ordinaires, une marge d'erreur et de transgression. Alors l'analyse de ces modifications, de ces transgressions hypothétiques du message post-exotique pourrait se faire déductivement, intuitivement, à partir de ce que la traduction française nous autorise à lire comme des références à un contexte linguistique et culturel que nous connaissons. Autrement dit, un lecteur étranger pourrait comparer ces renvois à ce qui leur correspondrait, ou ce qui aurait dû ou pu leur correspondre dans sa langue natale et sa mentalité nationale. Par exemple, un anglophone remarquerait la présence insistante des termes anglais dans la toponymie, un germanophone remarquera les allitérations à S et Ch dans l'onomastique. Quant à nous, nous examinerons ce qui sonnerait pour un russophone et éventuellement résonnerait en lui. Le recours au contexte russo-soviétique est fréquent et n'a rien de fortuit ni vulgairement folklorique. Plusieurs textes post-exotiques, dans leur traduction française en tout cas, fournissent au lecteur russe réceptif des points d'appui, des jalons ou des zones entières de reconnaissance, ceci à tous les niveaux et à tel point qu'il ne doit pas se sentir vraiment dépaysé. Préparé par l'expérience historique de la Russie, multiethnique et multiculturelle, ni européenne, ni asiatique, toujours violemment tiraillé entre l'ordre total et le désordre absolu, il pourrait aborder cet univers post-exotique, éventuellement s'y reconnaître et même se l'approprier. La familiarité et même la connivence pourraient naître du rapprochement de ce qui semble commun, thème. Censure, persécution, camp, prison, perte d'idéaux, d'identité, point de vue, préférence donnée au communautaire au détriment de l'individuel, structure narrative, témoignage, confidence, aveu, caractère de discours, utopique, messianique, empathique ou vocabulaire polysémantique. En effet, certaines histoires décrivent avec un réalisme presque documentaire digne des témoignages de Victor Serge ou de Jacques Rossi, l'ambiance de la Russie stalinienne. Interrogatoire, torture, vie des camps, transport des détenus, ou encore ce rituel des autocritiques devant les masses, par exemple au commissariat qui parodie les procès des années 30, avec des détails on ne peut plus convaincants, comme par exemple le portrait de Dzerzhinsky sur le mur, et un revolver dans le tiroir du bureau dans les locaux de l'unité de la légalité révolutionnaire, au cas où. Or, nous n'avons pas la prétention d'analyser le développement du thème carcéral soviétique dans l'œuvre post-exotique, ni les procédés de la post-exotisation du goulag. Ce qui nous intéresse ici, ce sont des micro-références à tout ce qui est russe ou peut sembler être russe, au niveau lexical, et la manière dont ces renvois, tantôt manifestes, tantôt dissimulés, fonctionneraient dans le contexte russe et feraient réagir le lecteur russophone. C'est surtout dans l'onomastique que nous constatons une forte présence du slave facilement identifiable. Donc il va des prénoms simples et anodins, Oleg, Dmitri, Irina, Ledmila, je m'arrête, jusqu'aux noms chargés de connotations supplémentaires, historiques ou culturelles, comme Vroubel, Borodine ou Korsakov, ou spirituelles, comme par exemple Bogdan Shlum, qui donne des spectacles pour les oiseaux, un russe Bog, ça veut dire Dieu, Dan, donné, ce qui peut se lire comme bienheureux ou folle en Dieu ou innocent. Parfois, un nom peut caractériser le personnage. Ainsi, le soldat Glushenko, guidé dans le bardo, est incapable d'entendre les instructions, mais à tel point que le narrateur s'indigne. Je cite, « Cet homme est comme sourd à ce qu'on lui sérine avec patience et compassion. » Mais justement, son nom est forgé à partir de la racine russe « Grouch, Grouch ». « Grouchoy » en russe veut dire « sourd ». Donc « Glushenko », c'est quelqu'un qui est sourd, par définition. Un autre clin d'œil malicieux concerne, par exemple, le nom du chien, précisément du bâtard roux, Smerch. En russe, Smerch, ça veut dire trombe ou cyclone. Mais phonétiquement, il s'approche de Smerch. Et Smerch, c'est acronyme russe Smerch Shpionom, mort aux espions, utilisé pour désigner les départements de contre-espionnage soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation était chargée de démasquer et d'éliminer traîtres, déserteurs, espions et éléments criminels de l'armée rouge. La plupart de ces évocations portent des connotations révolutionnaires et post-révolutionnaires. Marno, Nestor Marno, je crois qu'on sait qui c'était, donc créateur de l'armée de libération d'Ukraine, qui, après une courte collaboration avec des Rouges, après s'est retourné et contre les Rouges et contre les Blancs, donc anarchiste et fondateur du mouvement d'opposition. Petrograd, c'est le nom de ville de Pétersbourg de 1914 à 1924. Vlasenko, un nom qui sonne tout de suite pour l'oreille russe, parce que, donc, c'est un auteur des ouvrages post-exotiques, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est un personnage qui retourne sa veste, si on peut dire ça, parce que autrefois militant pour le monde nouveau, il est rééduqué et devenu policier. Donc son nom évoque le nom d'un autre traître, le général soviétique Andrei Vlasov, qui se rallie à l'ennemi et combat dans les rangs de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a le nom Cominform, le bureau donc de information des partis communistes, l'organisation qui s'occupait de contrôler idéologiquement des partis communistes d'Europe. Le nom de famille Ulyagina, qui commence par H, en russe, et d'ailleurs donc la traductrice des anges mineurs l'a traduit avec G, Gulyagina. Donc Gulyagina, ça nous renvoie tout de suite donc à Gulag ou Gulak, ça veut dire fêtard ou noceur, mais aussi et surtout au Gulag. Pour certains personnages, cette origine slave affecte à la fois et le nom et le prénom. Ainsi, nous avons Ogon ou Ogon Platonov. Ogon en russe, ça veut dire feu. Platonov, ça renvoie immédiatement à Andrei Platonov, l'écrivain russe. Mais aussi, ça peut renvoyer à Piotr Platonov, qui était un des premiers assistants de Marno, aussi anarchiste communiste, fusillé par les bolcheviks en 1921. Vassilissa Loukachouk, elle nous intéresse avant tout parce qu'elle est co-narratrice d'un ouvrage, un titre très significatif, Hommage à Vladimir Tché Bronstein. Il y a Artyom Vissoly, qui est pseudonyme de Nikolai Kachkurov, bolchevique, journaliste, rédacteur du journal Laboureur Rouge, arrêté en 1937, fusillé en 1939. Ou Raya Osorgina, son homonyme Mikhail Osorgin, écrivain, journaliste, lié aux anarchistes, notamment à Bakounine, a été arrêté deux fois par les bolcheviks et après a expédié avec le bateau des philosophes en 1922 avec une centaine de ceux qu'on appelle intelligentsia russe, dont Frank Losev. À partir de certains noms tels que Balkachin, Vorkuta, Kamtchatkin, Samarkand, on pourrait reconstituer une véritable toponymie concentrationnaire des années 30-50. Le nom Kirgil pourrait renvoyer au village ouzbek Kirgili, mais aussi à Kirgewar, rivière dans la région de Magadan, zone de transit majeure de multiples camps devenus synonymes incontestables de goulag pour chaque soviétique ou post-soviétique qui se respecte. Dans le titre « Nuit blanche » de Balkiri, le jeu de mots pourrait cacher plusieurs références. De la Balkirie, en plus des Balkans et des Valkyries, on pourrait déduire la Bashkirie, région de la Russie connue notamment par ses camps de détenus politiques et prisonniers de guerre. De la même façon, le nom de la rivière Mourdra pourrait englober l'Amour, rivière frontalière entre la Chine et la Russie, mais aussi et surtout l'Amour, la mort et la toundra. Quant à la localité Les Trois Museaux, le terme semble ici avoir été traduit du russe « tri morde ». Et Morda nous renvoie immédiatement à la Mordva, une région tristement célèbre par ses systèmes pénitentiaires Temwag et Dubrovwag, possédant une quinzaine d'énormes camps destinés aux détenus, principalement politiques. Nous avons examiné quelques noms significatifs, et donc nous pourrions douter que ce ne soit que des, je cite, « petits secrets entre surnarrateurs complices », mais en aucun cas des clés nécessaires à la lecture, comme le prétend le traducteur français. En plus de leur musicalité et de leur étrangeté culturelle, certains noms post-exotiques contiennent incontestablement des désignations métatextuelles, parfois même symboliques, renvoyant à la réalité russe d'hier, d'aujourd'hui et éventuellement de demain. Les références à la culture russe peuvent certainement trouver un écho chez une oreille soviétique et post-soviétique, mais à moins certains cas ne manqueraient pas de susciter la perplexité. Parfois, la traduction française semble ne pas tenir compte de toute la complexité du vocabulaire d'origine russe dans la production post-exotique et risque de provoquer une confusion terminologique, qui a toute chance de perturber considérablement la réception. En tout cas pour le lecteur russe. Je donne quelques exemples. Dans Lisbonne dernière marge, Konrad Hetzelkind, en allemand ce nom veut dire Hetzen, traqué, et Kind, enfant, chef des commandos, chargé de chasser et d'éliminer des groupes subversifs, est comparé à un stalker, en anglais harceleur ou poursuivant. Pourtant, le mot stalker est indissolublement lié, en tout cas pour les russophones, au personnage principal du film homonyme d'André Tarkovsky. Le personnage cinématographique n'a rien de l'aventurier qui, dans l'ouvrage de science-fiction, vit du pillage dans la zone interdite. Dans le film, Stalker est un passeur vers le lieu mythique du bonheur, un désintéressé, un innocent, un exclu, un rejeté, bref, un des personnages post-exotiques. Et il serait très perturbant, en tout cas pour le lecteur russe, d'associer ce gueux humilié et offensé, cette larve, selon ses propres dires, à un tueur d'élite professionnelle. Nous autres, experts en expériences désastreuses, nous aurions du mal à faire le rapprochement. Je dis « nous », mais on aura compris qu'il s'agit d'une pure convention. Dans « Dandog », le mot français « blatt », avec deux « t », est utilisé dans son sens propre, insecte, orthoptère, nocturne, mais également dans un sens figuré pour désigner un détenu du camp. Nous y apprenons aussi qu'il existe un jargon spécifique, le blatnoï des camps. Dans Songe de Mevlido, cet argot entre même comme une composante importante dans le sabir que le personnage utilise pour communiquer avec les étrangers. Je cite « du blatnoï de camp mélangé à du coréen avec des traces d'anglais et de darkhat ». Les deux termes jouent autour de la même racine franco-russe et rapprochent logiquement des notions qui sont a priori proches. Donc en français, blat, détenu, et en russe, blatnoy yazyk, ou boitniak, donc argot des détenus. En principe, ça devrait fonctionner. Or, blatnoy ou boitar ne signifie qu'une catégorie spéciale de détenus, à savoir une caste supérieure de criminels professionnels de droit commun, qui ont souvent eu un pouvoir réel dans les prisons et les camps soviétiques, qui ont collaboré avec les autorités et qui ont toujours été considérés par les autorités comme idéologiquement proches. Ce nom argotique, blatnoy, n'a jamais concerné les criminels ordinaires et en aucun cas les détenus politiques, surtout ceux qui ont été stigmatisés comme vragi naroda, les ennemis du peuple. Ces derniers, dans certains textes post-exotiques d'ailleurs, sont apparentés aux puissants et nantis, ce qui peut créer aussi une assimilation extrêmement dérangeante pour un russophone. Quand Will Scheidman se voit assigné à la résidence forcée afin de ne plus être tenté de fricoter avec les capitalistes et les ennemis du peuple, l'emploi du mot pourrait encore passer aux yeux d'un nostalgique de l'époque héroïque, des années 30-40. Mais quand la terroriste Sonia Volgelan fusille les limousines chargées de ministres et d'ennemis du peuple en fonction, repus après leur banquet citoyen de la mi-journée, cela engendre un véritable malentendu. En russe, Vrak Narod, l'ennemi du peuple, a été depuis longtemps perverti et vidé de son sens primitif, de son sens propre, l'ennemi du peuple, pour devenir une expression figée, un cliché aussi cruel qu'absurde, dont la machine étatique s'est servie pour condamner des millions de personnes. Nous ne pouvons pas ignorer le nombre d'innocents déportés et exterminés sous cette marque terrifiante. Je dis nous, mais je pense autant à moi qu'aux autres. D'après le porte-parole du post-exotisme, ce dernier a rapport avec du chamanisme révolutionnaire et avec de la littérature. C'est, entre autres choses, un édifice romanesque qui a surtout à voir avec le chamanisme, avec une variante bolchevique du chamanisme. Là aussi, on se trouve confronté à une confusion grave, voire plongé dans la plus profonde perplexité. Le rapprochement des deux termes semble être paradoxal et même troublant. Qu'est-ce que les pratiques chamaniques pourraient avoir de commun avec cet ersatz d'athéisme primaire et de matérialisme châtré dont on nous a bourré le crâne pendant une bonne partie du siècle dernier? Nous ne pouvons pas ignorer le nombre de nos camarades chamans, de toutes sortes, bannis, exterminés au nom de cette doctrine débilitante, exterminés justement par les bolcheviks qui, eux, ne concevaient qu'un seul usage du réel et qu'une façon de le transformer. Les textes post-exotiques abondent en mots apparemment simples, mais lourds de connotations. Une fois transcrits en cyrillique et placés dans un contexte russe, dans le contexte russe, les termes égalitarisme, révolution, komsomol, mais surtout bolchevisme, risquent de signifier ou de sous-entendre autre chose, ne pas correspondre tout à fait au sens que leur donnerait le narrateur post-exotique ou le traducteur français. Le dernier terme nous semble être le plus troublant, le plus déstabilisant. Nous aurions du mal à lui attribuer une connotation romantique, même dans une œuvre romanesque. Pour nous autres experts en désastre, n'importe quel bolchevisme, qu'il s'agisse de sa variante léniniste, trotskiste ou staliniste, ou de ses versions 1903, 1905, 1907, 1912, 1924, 1917, 1952, évoquerait le centralisme bureaucratique et autoritaire, le banditisme expropriateur et le terrorisme d'État. Pour nous, le terme s'est sclérosé linguistiquement pour devenir, consciemment ou non, synonyme de pression, d'oppression et de répression globalisante. Dans notre effort de compréhension, la dialectique nous serait d'un très faible secours. Nous craignons que le lecteur russe, le plus résigné et le plus sympathisant, ne soit pas assez rompu en art du brouillage des contraires pour accepter cette convention, même si elle est purement littéraire. J'ai dit nous, mais on a compris que... Les quelques exemples cités montrent bien la multitude et la diversité des problèmes qui se posent à la traduction du post-exotique francisé vers d'autres langues vernaculaires. Le plus simple serait de rendre une version étrangère de la version française sans se soucier de la nature intermédiaire de cette dernière, comme nous aurions fait avec n'importe quel ouvrage. Dans ce cas, nous ne traduirions que des mots et des phrases, en risquant de livrer une traduction de traduction, c'est-à-dire d'ajouter au gros mensonge littéraire notre petit mensonge traductorial, et de produire un énième titre pour ce qu'on appelle en post-exotique la littérature officielle. Le plus difficile serait de remonter à la source, au substrat post-exotique, pour essayer de reconstituer la sincérité et la force des messages contestataires et d'en trouver une forme adéquate dans et pour sa langue natale. On devrait s'efforcer au milieu des sanglots et des gémissements de, je cite, « traduire les syllabes confuses pour en atteindre le cœur ». Le plus probable que le traducteur sera amené à œuvrer entre ces deux extrêmes, cédant ici, gagnant là, et en traçant au fur et à mesure de sa progression sa propre voie vers un idéal jamais accessible. En guise de conclusion, je tiens à rendre hommage, y compris au sens post-exotique du terme, à tous les traducteurs, sur-traducteurs et sous-traducteurs de post-exotique, quelle que soit leur langue natale, français, russe, chinois, poldev ou autre, et leur nom de paille, vrai ou faux, emprunté ou inventé, éradiqué ou pas encore. Hommage à tous ceux qui trouvent la volonté et la force d'interpréter les rêves du passé, du présent et du futur, quelle que soit la pression qu'ils supportent, internationale communiste, sociale nationaliste ou globale capitaliste. Nous tenons à louer ici, à haute voix, leur ouverture d'esprit et leur esprit d'ouverture libertaire. За нашу и вашу свободу.
Moi, j'ai déjà répondu, hein, avant même, j'ai dit formidable. Je suis ravie par cet hommage aux traducteurs, qu'ils soient traducteurs de leur propre langue, ou de la langue étrangère dans leur propre langue, ou des langues étrangères variées. Voilà, je me tais parce que c'est pas à moi de parler en premier, évidemment, mais j'ai pas pu. Question. Remarque. Frédéric, je le sens.
Allez, je commence. Bon, la chose passée là.
Je t'en prie.
Et, bon, en français, je suis époustouflé par la façon dont, d'une part, tu as problématisé dans une première partie de ton propos la façon dont la question de la traduction est elle-même prise en charge dans l'œuvre par le dispositif suivant lequel Volodine ne serait que le traducteur de ses propres personnages, donc suivant la métalettre dont on parlait depuis quelques jours.
Oui, je pars des citations.
Oui, tout à fait. Mais il faudra qu'on en reparle parce que j'ai essayé de faire un propos là-dessus. Également, j'ai essayé de te voir où ça menait, c'est impossible, mais pour ma part, en déplaçant de plus en plus la question de la traduction vers la question du témoignage, en fait, dans l'article que j'avais écrit, enfin, qui était la bonne partie de mon débat, en fait, et où justement, partait de la question de la traduction pour arriver à justement cette langue transnationale qui était la langue des personnages et qui, enfin des écrivains incarcérés et où finalement la question de la traduction rejoignait directement la question du témoignage. Mais, voilà. Et moi, ce qui est donc dans une deuxième, il me semble que tu as rejoint pas mal des propositions qu'il y avait là-dedans. Donc, bravo. Et d'autre part, toute une partie, alors là, vraiment un territoire que je ne pouvais pas explorer et que tu as fait vraiment de façon, à mon sens, formidable comme travail, avant de te lancer toi-même dans ce travail, de façon concomitante au travail de traduction que tu as un contrat à présent avec un éditeur très bon choix, je crois. C'est ça. Donc,
ça devient de plus en plus problématique.
Pardon ?
Enfin,
non, mais,
on reparlera.
Moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est finalement comment tu vas te débrouiller pour recharger la question de la contestation, de la force contestataire, comme tu dis, dans cette œuvre, à partir du moment où les termes dont fait usage le post-exotisme qui renvoie à la réalité soviétique de façon explicite. Ne peuvent pas être reçus du tout de la même façon. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire du mot comme somol, est-ce que tu vas le reprendre tel quel
Oui, peut-être, évidemment.
Alors, Anne, peut-être.
Parce que je pense que ma question rejoint un peu
oui,
de Frédéric, et donc vous pouvez peut-être faire une réponse globale.
Oui, enfin, j'avais pas mal d'exemples.
Il y a Anne qui veut ajouter sa question à la mienne.
Oui.
J'ai été extrêmement intéressée par ce que vous nous avez présenté, qui est extrêmement brillant. Et comme Frédéric, j'ai beaucoup apprécié la problématisation que vous avez posée au début, en rappelant que l'œuvre de Volodin se présente comme une œuvre déjà traduite. Hein, traduite une langue,
ou interprétée. Parce que ça, le plus souvent, ça passe de l'oral, donc...
Et par la suite, il y a deux niveaux que je trouve également extrêmement instructifs pour nous. Tout d'abord, il y a le niveau proprement linguistique. Moi, mon année de russe, elle est loin derrière, et de toute façon, elle est fragile, donc j'ai appris beaucoup en vous écoutant sur les étymologies, Douchenko, etc. Mais finalement, pour moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la dernière. C'est-à-dire, ça renvoie finalement au contexte global dans lequel une traduction de Volodine en russe peut être reçue. Et ça m'a fait penser, et je pense que Frédéric sera d'accord, aux débats qui ont eu lieu à Moscou, où finalement, nous Français, nous nous sommes aperçus, avec sans doute une extrême naïveté, que les textes de Volodine n'étaient sans doute pas lus à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, comme ils pouvaient être lus à Paris ou ailleurs. Et cela, je dirais que la réception en France de Volodine n'est certainement pas une. Hein, et ici même, on en a eu la preuve, puisque chacun de nous, je pense, a des lectures différentes et, pour employer un terme qui n'appartient pas d'habitude à mon vocabulaire, des idéologies différentes. Je ferme les guillemets. Mais cela dit, moi, ma question, c'est à partir de ce que vous avez démontré et démonté, c'est-à-dire le fait que, par exemple, le terme « ennemi du peuple » devient effectivement une expression figée, une expression creuse, qui historiquement a servi à expédier au goulag ou à la mort des gens qui étaient du peuple et qui n'étaient pas des ennemis du peuple. Hein, voilà. Donc, ce n'est qu'un exemple, vous en avez donné d'autres. Donc ma question, c'est finalement, un lecteur russe aujourd'hui, que peut-il recevoir de cette œuvre? Et vous, en tant que traducteur, même si vous avez été extrêmement fidèle à ce que dit le texte, est-ce que finalement vous n'êtes pas obligé de faire une révolution au sens de mettre à l'envers, en quelque sorte, ce qui est dit? Ma question est peut-être un peu confuse, mais je pense qu'elle est
aussi. Je crois qu'avec chaque terme problématique ou délicat, faudrait travailler en raison du contexte et de toute cette étymologie lourde de connotations qu'il traîne derrière. C'est vrai que d'un côté, en traduisant, on essaye de ne pas trahir. De l'autre côté, parfois, en respectant fidèlement la lettre, le mot, on trahit l'esprit. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de précepte à donner. Il faut voir avec chaque mot. On peut laisser tel quel. Il y a des ministres et des ennemis du peuple dans la Limousine, après un banquet, voilà. Et on reste là. On peut rajouter un petit adjectif vrai ennemi du peuple. Ça peut donner quelque chose. Est-ce que ça va trahir l'esprit ? Peut-être pas. On peut jouer avec les guillemets ou sans guillemets. Mais avec guillemets ou sans guillemets, ennemi du peuple, immédiatement dans l'esprit, on a des millions de gens arrêtés, exécutés, etc. Immédiatement. Donc, je ne vois pas des ministres avec des ennemis du peuple. Je les vois d'une manière romanesque, mais je ne les vois pas d'une manière psychologique. Chaman révolutionnaire, c'est à peu près la même chose. Encore le pope qui collabore avec du KGB, oui, pourquoi pas, on a vu ça. Un lama avec un pins de l'étoile rouge, peut-être. Chaman révolutionnaire, encore, oui, mais chaman bolchevique, il faut qu'on joue avec il faut qu'on essaye de jouer. Ou, on peut les... Je sais pas, c'est très compliqué. On a parlé tout à l'heure avec mon collègue américain. Justement, il y a, ne serait-ce que le titre, Bardo, Ornod Bardo, est-ce qu'on traduit, est-ce qu'on ne traduit pas? Et si on traduit, comment est-ce qu'on va jouer? J'ai pas de réponse.
Non plus.
Je ne sais pas si j'ai répondu.
Vous avez de la chance, pas de réponse parce que vous n'avez pas encore terminé. Ouais. Voilà. Donc, oui.
Ben, vas-y. J'avais la même question en fait que tous les deux. Donc, j'en profite pour remettre. On traduit ou pas bolchevisme? Est-ce qu'on peut traduire
bolchevisme? Il y a le mot bolchevique, bolchevisme. Oui. De ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est pas un problème.
C'est pas un problème. Vous savez, on peut traduire beaucoup de choses.
Mais en l'occurrence, c'est un mot russe.
Oui, non, mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il va être compris?
Évidemment.
Non, le mot est compris.
Enfin. Non, mais compris, au sens la perception de ce que ça va provoquer. Est-ce que c'est un mot qui peut...
Ça peut être compris, mais ça va être compris, mais ça va être compris dans des sens... interprété plutôt différemment. Tout le monde comprend ce que c'est un parti bolchevique créé en 1902 à la conférence de Londres après Bruxelles. Ouais, on connaît l'histoire. Bolchevisme, ça veut dire majorité, Lénine, bon. Ben. Donc on sait ce que c'est.
Après, comment faire pour que ça
rende... Mais comment... Et on peut traduire bolchevique chaman. Chaman bolchevique. Et alors? Et c'est là, au deuxième degré, qu'on commence à avoir des doutes. Je parle des doutes terminologiques. Donc on peut traduire des mots, mais...
Alors pour expliciter... Attends. Oui, enfin bon, pour reprendre ce qu'a dit Anne, enfin, qui finalement nous concerne, si je comprends bien, tous les trois, puisque nous étions quatre avec Pierre, où est-il ? Bon, exit Pierre, à Moscou, à ce colloque dont tu parles, c'est effectivement là un problème presque abyssal, je dirais, mais qui est très intéressant pour nous parce qu'il met en relief le décalage entre traduction des mots des jeux de mots, des associations de mots dans lesquels finalement on connaît la chanson, puisque pour Tolstoï, il y avait le français, enfin toute la littérature russe du 19e siècle utilisait les italiques avec une indication dès le début, on savait quand c'était l'autre langue, etc. On peut jouer sur la littérature. Mais il y a les mots et il y a ce que j'ai envie d'appeler la résonance affective des mots, c'est-à-dire la zone profonde. C'est vraiment ça qui m'intéresse, moi, chez Volodine, la zone profonde où là, la perception, dans le conscient collectif, j'aime pas le mot, mais j'en ai pas de meilleur, est totalement différente, effectivement, d'un groupe à l'autre, je dirais, d'une expérience à l'autre, déjà, à l'intérieur d'un même lieu, je dirais, linguistique, mais surtout à travers ces expériences très très fondamentalement différentes du XXe siècle, c'est-à-dire de cette question du désastre du XXe siècle, dans laquelle là un clivage profond se crée entre ceux qui ont subi la catastrophe par la connaissance et ceux qui l'ont subi non seulement par l'expérience, mais par la prolongation jusqu'à aujourd'hui et l'irradiation dans le langage de cette expérience. Et là, l'effet du mot, évidemment, n'est pas le même. Pour moi, cet exemple que tu as donné est formidable, c'est-à-dire le chaman bolchevique. Pour nous, un chaman, c'est de la fantaisie, c'est de l'imaginaire. Pour un russe, c'est un pauvre type réprimé comme les sectants, les baptistes et autres religieux ou autres penseurs qui ont été vraiment l'eau des fournées de...
Enfin, ça dépend. Mais j'étais à Tchoukotka. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Tchoukotka, c'est... les Tchouktches, c'est l'extrémité de...
Nord-Est.
Extrême, enfin, juste en face... Enfin, derrière le détroit Bering, juste en face de l'Alaska. Et donc... avoir les rescapés, ce qui restait de chamans, en plus... ils se révèlent pas facilement. Voir ça dans le contexte soviétique de soviétisation totale de ces histoires du Nord, ça blesse profondément. Et c'est ça. Tu as parlé de l'inconscient collectif. Il y avait un scientifique russe, Bertilev, qui a proposé un autre terme. Il disait psyché social. C'est joli, psyché social. Et donc, quand il parlait de psyché social, il voulait dire toute pensée, tout rêve qui ne meurt pas, mais reste dans l'état potentiel, virtuel, et qui se communique. Et donc, c'est ça qui crée le psyché social. C'est-à-dire l'énergie qui ne meurt pas, mais qui reste suspendue dans les airs, dans l'espace. Et donc, au niveau de ce psyché social, en tout cas en Russie, la traduction de certains termes sensibles, délicats, il doit être quand même pensé d'une manière très 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 attentive. Pas parce qu'on risque de provoquer ou de blesser l'idéologie des uns ou des autres, mais parce qu'on risque d'être mal compris.
Alors, Frédéric.
Excuse-moi, je vais céder la parole, mais je me demandais si tu avais lu la traduction de Katia Dmitriou.
Oui. Des anges mineurs.
Des anges mineurs. Et si tu avais lu le texte à la fois en français et en russe,
oui.
et si déjà tu avais été frappé par, je te demande absolument pas de faire de jugement de valeur, mais simplement si déjà tu avais été frappé par une perception différente du fait déjà de la traduction, et est-ce que tu avais l'impression d'une réception avant complètement de textes qui ne résonnaient pas de la même façon.
Le problème, c'est que d'abord, j'ai lu la version française et après la version russe.
Ouais.
Donc, du coup, quand j'ai lu la version russe, ça ne m'a pas frappé. Quand j'ai lu la traduction française, je continue toujours d'employer le mot traduction. Oui, c'est à ce stade-là que certains termes, mais dans Des Anges Mineurs, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je dis, chaman révolutionnaire, ça me choque pas, ça accroche l'œil, ça fait ça, mais sans plus.
Non, mais quand tu as des scènes dans Des Anges Mineurs, je sais pas, avec les vieillards qui remettent des miradors pour que ça leur rappelle les camps.
Oui, tout à fait, ça les calme, parce qu'il y a des miradors, oui, je me souviens. Peut-être je cite, sûrement je cite pas bien, mais.
Parce qu'on est dans. Enfin, c'est quand même un roman qui est situé dans l'espace post-soviétique.
Soviétique. Si on peut dire.
En tout cas, post-communiste.
D'une certaine manière, on est toujours post quelque chose et avant quelque chose. Donc, dire russe, soviétique, post-soviétique, maintenant on est quoi? On est capitaliste, on est post-communiste, et en même temps on est et communiste et capitaliste. C'est ça. De toute façon, c'est pas très cartésien, donc... on aurait du mal à vraiment stratifier. Voilà, il y avait la révolution, il y avait après donc révolution sclérosée, il y avait ceci, il y avait cela. Parfois, j'ai l'impression que l'histoire elle se développe d'une manière pas cyclique, mais d'une manière spirale, pataphysique. C'est une sorte de retour. Et donc, le bolchevisme, il continue. Le capitalisme, on l'a eu déjà dans les années 20. Il y a une sorte de rotation des temps, ou plutôt de pénétration de régime depuis qu'on vit. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on vit et... À la Russie des années 20 et à la Russie des années 37 et la Russie des 40 et évidemment avec la conquête capitaliste aussi. Et parfois ça se mélange à une sorte de puzzle. Donc j'aurais dû... Je mettrai en garde ceux qui veulent vraiment stratifier proprement d'une manière... tout à fait cartésienne, voilà, pure, impure. Et c'est ça d'ailleurs que les textes post-exotiques ont une force frappante, c'est qu'ils mettent en évidence tout caractère conventionnel de ce genre de séparation. Donc j'ai parlé un petit peu de la dialectique des... Dans le contraire, bourreau, victime, etc. C'est très très frappant et je pense que c'est ça qui reste pour les lecteurs russophones éventuels quelque chose de très très fort dans l'œuvre post-exotique. Mais il faut que ça soit traduit et publié d'abord. Le livre que Katia Dmitrieva a traduit, Des Anges Mineurs, ça a été publié en 2008 à Moscou. Et avant de venir ici, j'ai essayé de regarder dans l'internet la presse sur cet événement. Et au fait, j'ai trouvé que deux articles. Je ne compte pas les petites notes que les éditeurs mettent pour vendre par internet. Le plus souvent, ils reprennent les quatrièmes des couvertures. Mais je parle des articles. J'ai trouvé que deux articles en russe, dont un était de Katia Dmitrieva. C'est tout. Depuis 2008, j'ai trouvé deux articles dignes de ce nom.
Alors, tout de même,
oui.
Donnons la parole.
J'ai trouvé vraiment très intéressant tout ce dont on est en train de reprendre dans le débat, là, qui faisait allusion à la fin de votre exposé. Puis ça me faisait réfléchir à cette expression de littérature étrangère en français, la question de la traduction. Parce que, du coup, ça souligne le fait que c'est en français. Que ce n'est pas simplement une langue sans terre, pour reprendre la formule d'Adorno, la langue dans laquelle on lit la première traduction des textes post-exotistes par Volodine. Ce n'est pas une langue simplement sans terre, c'est une langue déterritorialisée de quelque part, qui est en exil d'un lieu, et la difficulté spécifique que je vois...
Langue post-exotique.
C'est la reterritorialiser sur... le lieu, sur un des lieux, disons, d'où elle vient, cet espace complexe de la Russie post-soviétique.
Oui, et pas seulement de la Russie.
Non.
Je peux renvoyer à Marcel Proust, qui, dans Contre Sainte-Beuve, je crois, parle de ce que chaque œuvre, chaque grande œuvre, je ne me souviens pas de mémoire, chaque grande œuvre est écrite en une langue étrangère. Et d'ailleurs, cette phrase a été reprise par Deleuze dans Critique et Clinique, et remaniée à plusieurs reprises. Donc.
Mais ça a pu être, si on continue la formule, c'était comme des traductions par Antoine Bologne, ça a pu être traduit en français sans que ça pose, ou peut-être ça lui a posé les mêmes difficultés. Là, on commence à.
Nous ne savons pas.
Ça devient spéculatif, mais. C'est littérature étrangère en français et puis la dimension j'ai l'impression que c'est pas simplement une langue complètement déterritorialisée puisque ça pose des problèmes de la reterritorialiser vers d'autres et notamment vers le monde post-soviétique, mais ça serait intéressant de voir quels sont les problèmes spécifiques de la sortir de son exil pour la ramener c'est aussi la manière dont, je sais pas si c'est la même chose, mais la manière dont le rapport que peuvent avoir les exilés par rapport à la terre, dans le pays qui peut être fantasmé, il peut y avoir le rapport est compliqué, pas seulement un fantasme positif par rapport à l'endroit où on a été exilé, il peut y avoir du ressentiment, mais aussi du désir de retourner, etc. Tout ça dans le domaine de la langue.
Oui.
Oui, moi je voudrais rebondir sur cette question, justement, la déterritorialisation. À partir du moment où on traduit, dans le cas présent, en russe, ça veut dire qu'on reterritorialise. Donc il faut créer une langue étrangère, il faut traduire en langue étrangère vers le russe. Comment recréer cette distance? Autrement, ça, on aplatit tout.
Je me pose la question tout le temps.
Je pense que si quelqu'un en est capable, c'est toi.
Je ne sais pas. Mais comme j'ai déjà dit, chaque fois, il faut voir le contexte et aussi la manière dont on peut jouer ou ne pas jouer. Parfois, le texte, déjà le texte même, se prête à l'interprétation plus libre. Je donne un exemple, La disparition de Pérec, le roman lipogrammatique en E. Il se prêtait déjà au jeu. Les règles formelles étaient là, la structure formelle était là. On n'avait qu'à appliquer cette structure à une langue donnée. Donc on prend cette structure rigide, formelle, ce qui facilite au fait le travail, Sur une langue donnée, en russe, on choisit la voyelle la plus employée, on la supprime, mais après on commence, c'était simple la décision, mais après on commence à calculer, et il s'avère que par exemple, la disparition de Pérec a 26 chapitres, au nombre de lettres dans l'alphabet français, et en russe il y en a 33. Donc il fallait reconstituer tout et de faire de ce corpus-là 33 chapitres. Après on s'avère que le personnage principal qui s'appelle Anton Voil, c'est-à-dire voyelle, disparaît dans le chapitre 5, A, B, C, D, E. Donc le personnage correspondant qui s'appelait Anton Guasn,
qui veut dire voyelle,
qui veut dire voyelle mais aussi, disparaît dans le chapitre A, B, V, G, D, Y, O, G, Z, I, Y, K, K, L, M, N, O, dans le chapitre 16. Donc, il fallait faire des premiers chapitres très très courts pour arriver au 16e chapitre où il disparaît. Donc, je ne vous donne que deux exemples. Et chaque fois, il fallait procéder par cette obsession arithmétique de Pérec. Et pour rester fidèle à l'esprit de l'œuvre, il fallait calculer tout. Donc, chaque fois, quand il y avait les renvois aux chiffres 5 ou 6, ou 25, 26, il fallait faire soit 33, 32, soit 10, 11, etc., etc. Jusqu'au nom des personnages qu'il fallait transformer. Ça, c'est des cas, enfin, c'est un cas radical. Pour le post-exotisme, le problème ne se pose pas de cette façon-là. C'est plus un problème de réception que de conception, en fait. Ce qui me préoccupe, oui, c'est plutôt le problème de réception que le problème de confection, de fabrication. Voilà, je ne sais pas si...
Oui, alors il y avait d'abord Monica.
En fait, Frédéric m'a demandé de...
Ah oui, il faut qu'on termine.
Non, d'attendre un peu peut-être la table ronde, parce que c'est vrai que c'était une question un petit peu plus, pas seulement russo-française. Donc...
On est en train d'anticiper sur la table ronde.
Ah oui,
excusez-moi. Avec Mirka, avec Swann. À partir du moment où on pose la question de. Mais si, parce qu'à partir du moment où on pose la question de savoir comment retérialiser dans une langue.
Oui, c'est vrai, c'est une question générale, donc...
Voilà, c'est pour ça que Mirka a envie d'intervenir là, parce que c'est évident, elle s'est posée...
Oui, mais alors, à ce moment-là, attendez, est-ce qu'il y a une réelle question pour ce que vient de dire Valérie, tout de suite, et puis ensuite, sinon, pause...